Chers auditeurs, bonsoir, très heureux de vous retrouver en ce dimanche soir avec, comme à l'habitude, 3 heures d'émission en direct. Un peu de retard au départ, je vous prie de nous excuser. Nous recevons tout d'abord à 18h maintenant Thierry Lenz, que vous connaissez bien, qui vient nous parler du monde à l'avènement de Napoléon Bonaparte. Et puis à 19h30, nous recevons Jean-Paul Desbras, qui est historien et qui vient nous parler de Danton, à l'occasion de la publication de son livre aux éditions du Rocher. C'est la deuxième émission que nous consacrons à Danton. Je rappelle que Laurent est au standard, qu'il sera ravi de prendre tous vos messages. Je vous redonne le téléphone de la radio, 01 46 51 00 85, 01 46 51 00 85, ou par courrier électronique courtoisie@rc.fr, courtoisie@rc.fr. Nous abordons donc maintenant la première partie de cette émission. Napoléon, un monument français rappelant ses réussites comme ses échecs, une brillante synthèse signée Thierry Lenz, expose la dimension mondiale de la saga napoléonienne. C'est en ces termes que Jean Sévillia, dans le Figaro Magazine, saluait il y a quelques mois, quelques semaines, le magnifique ouvrage que Thierry Lenz en effet publie aux éditions Belin dans une très belle collection qui est la collection Mémoire. Référence, pardon, pas mémoire, référence, collection dirigée par Joël Cornette, que nous connaissons bien, que nous avons toujours plaisir à recevoir à ce micro. Dans ce livre, Thierry Lenz présente l'ambition très vaste de Napoléon lorsqu'il conquiert le pouvoir. Il a en effet une vision qui est mondiale et il entend réorganiser le continent européen selon sa volonté. En effet, très jeune, il s'est nourri de savoirs géographiques et historiques, puis il voyage plus que ses contemporains, bien sûr en Italie à l'occasion de ses premières batailles, de ses premières victoires, mais aussi en Égypte, au Moyen-Orient, dans le but de couper la route des Indes. Son règne est marqué dès le début par l'héritage des conquêtes de la Révolution qui le conduisent à poursuivre l'affrontement avec l'Angleterre en une lutte à mort pour l'hégémonie mondiale. On en connaît l'issue malheureuse, dramatique, un soir de juin 1815, alors que la veille encore, Napoléon battait Blücher à la bataille de Ligny. Il est toujours frappant d'ailleurs que le sort d'un pays, d'un empire aussi puissant et glorieux que le premier empire ait pu se jouer d'ailleurs à si peu lors d'une bataille qui ne devait pas, qui ne pouvait pas être perdue. Et pourtant certains avaient prévu cette issue fatale, dont Chateaubriand, nous allons d'ailleurs en parler avec notre invité. Nous connaissons ainsi la sentence du grand écrivain vivant: il a manqué le monde, mort il le possède. Nous avions déjà réalisé une première émission avec Thierry Lenz qui nous étions en quelque sorte consacrés à la fin de son ouvrage. On fait tout à l'envers ce soir.
Oui.
Et on avait commencé par la fin.
Mais nous avions déjà 10 minutes de retard la dernière fois.
Exactement.
Et c'était de ma faute.
Oui, aujourd'hui oui. C'est de ma faute, oui.
Oui, oui.
Mais comme quoi. C'est peut-être.
Je porte malheur aux émissions
du
dimanche.
Non, c'est le thème. Non, ça va pas vous dire, ça. C'est impossible. Vous ne pouvez pas apporter malheur.
Ouais.
Eh bien. Oui, nous avions donc consacré le premier émission à l'héritage napoléonien pour notre plus grand plaisir. En effet, Thierry Lenz revient ce soir pour évoquer le commencement. Cette fois-ci, on fait le début de cet ouvrage très, très complet, très fouillé, très bien illustré d'ailleurs. Et Thierry Lenz va nous parler du monde tel que Bonaparte le trouve à son avènement. C'est une partie très originale et passionnante de cet ouvrage. Thierry Lenz, bonsoir.
Bonsoir.
Eh bien, merci beaucoup d'être avec nous ce soir, et surtout, Thierry Lenz, merci d'avoir préféré être dans le studio de Radio Courtoisie plutôt qu'au Champ de Mars, à célébrer la victoire du PSG. Alors, peut-être avez-vous hésité, non, je ne sais pas.
Écoutez, je ne veux pas raconter ma vie à vos auditeurs, mais je fuis 100 000 supporters du Paris Saint-Germain depuis cet après-midi, puisque j'avais une séance de signature au Trocadéro, donc ils étaient à la Tour Eiffel.
Ah oui, en effet.
Je suis passé juste à côté, et puis je suis venu ici, vos auditeurs, enfin nos auditeurs savent que nous sommes pas très loin du Parc des Princes, ils vont arriver. Donc, vous serez encore en émission, que j'essaierai de les fuir pour retourner vers le 13e arrondissement.
En tout cas, merci ce soir d'être là dans le studio. On se dit bonsoir. Heureux. En direct, on en est vraiment très très heureux, Thierry Lienz. Je rappelle quelques-uns des très nombreux livres que vous avez écrits. Je cite toujours cet ouvrage parce que c'est le premier livre pour lequel j'ai eu le plaisir de vous recevoir pour une première fois, Sans question sur Napoléon. C'est un livre que j'avais beaucoup apprécié d'ailleurs, comme tous vos livres, mais celui-là est particulièrement très très pédagogique. Sans question qu'on peut se poser sur Napoléon. Et vous répondez parfaitement à toutes les questions. Et ça, vous l'aviez publié aux éditions de la Boétie. Vous avez publié aussi chez Perrin les 20 jours de Fontainebleau, bien sûr un Waterloo 1815, nous venons de l'évoquer en introduction, toujours chez Perrin, Napoléon et la France, là, aux éditions Vendémiaire. Et puis plus récemment, pour Napoléon, ça c'était à l'occasion du bicentenaire, naturellement. Et puis l'histoire du tombeau en 2023, l'histoire suite logique à cet ouvrage, n'est-ce pas, sur les bords de la Seine, histoire et secret du tombeau de Napoléon. Je pourrais en citer bien d'autres. Vous avez écrit d'ailleurs aussi sur d'autres thèmes que celui de Napoléon. Je citerai par exemple le tout dernier d'entre eux, parce que c'est assez récent, Charles Bedeau, le magnifique millionnaire aventurier et agent triple aux éditions Perrin, personnage étonnant.
Ouais,
assez,
ouais.
Avec des côtés assez...
Et je crois qu'on a fait une émission, il me semble, sur Charles Bedeau.
Oui, bien pas, sûr. Rater ça. Et alors j'aime bien, toujours, quand on parcourt votre riche curriculum à l'image de votre vie professionnelle, Thierry Lienz, on découvre toujours des choses qui intriguent et on a envie de vous poser la question. Et vous avez commencé votre vie professionnelle comme assistant parlementaire d'un député de la 4e circonscription de la Moselle, ce qui est logique parce que vous êtes,
voilà,
c'est votre région, la Moselle. Ouais. Et comme vous écrivez quand même régulièrement des chroniques dans le Figaro qui ne sont pas uniquement consacrées à l'histoire, peut-être inspirées par l'histoire, mais pas uniquement consacrées à l'histoire et parfois inspirées en effet par l'actualité politique. Je voulais vous poser cette question. Qu'est-ce qui vous a conduit à être assistant parlementaire ? Est-ce que ça ne vous a pas donné envie de poursuivre dans la vie politique ?
Non, alors vous allez voir que nous allons poursuivre les paradoxes.
Ah bon ?
D'abord, c'était 1984-1986, donc ça n'a pas duré longtemps. C'était quand même déjà il y a 40 ans. Et alors là, que les auditeurs de Radio Courtoisie, radio de toutes les droites et peut-être... même avec moi de tous les talents, eh bien, c'était un député socialiste.
Non.
Oui.
Et vous étiez socialiste à cet âge-là.
Alors, j'étais très jeune. J'étais surveillant dans un collège. J'avais déjà un DEA de droit et je savais pas trop comment me sortir de tout ça, quoi. Mon idée, c'était d'enseigner. Je donnais déjà des TD, etc. Et puis un professeur un jour me dit, ah bah tiens, il y a tel député qui s'appelait Robert Malgras, cherche un assistant. Et j'avais un ami, moi, qui était assistant parlementaire à Paris et qui trouvait ça très bien, ça l'amusait beaucoup. Et moi, vous savez, je me suis vu faire du droit public, du droit administratif, être une espèce de notable local à qui on viendrait demander son avis, etc. Et ben, donc j'ai accepté. Alors, ça n'est pas une excuse, mais peut-être ça va édulcorer la terreur inspirée aux auditeurs de Radio Courtoisie. Il venait d'être exclu du groupe socialiste parce qu'il avait protesté contre le plan acier, donc la fermeture de la sidérurgie Lorraine. Il était lui-même sidérurgiste, donc évidemment il pouvait pas faire autrement, mais il n'a jamais vraiment réintégré. Le Parti Socialiste a tout fait pour le tuer politiquement, si vous voulez, ce qui... est triste pour lui, mais très heureux pour moi, puisque je n'ai pas continué ensuite dans cette voie. Et donc, j'ai passé 2 ans. Alors, je n'ai pas fait de droit constitutionnel, je n'ai pas fait de procédure législative, j'ai fait beaucoup d'assistanat social. Et je dois vous avouer que ça a été un moment extrêmement formateur, parce que moi j'étais, bien sûr, je suis d'un milieu ouvrier, enfin j'ai pas ni à m'en vanter ni quoi que ce soit, mais j'ai quand même toujours vécu, c'est une famille d'ouvriers de la sidérurgie, donc c'était un peu, on va dire, l'aristocratie de la classe ouvrière hein, à ce moment-là, donc on n'était pas pauvres, hein, on n'était pas riches non plus, mais enfin... On ne vivait pas difficilement à ce moment-là. Et j'ai eu ce... En plus, ça a correspondu à ce plan acier. Enfin, vous vous rappelez sans doute, vous, de cette affaire. C'était des dizaines de milliers de licenciements. Hein, des fermetures d'usines qui étaient là depuis 100 ans, 150 ans, parfois 200 ans, à Hayange. Donc, une région qui était totalement tourneboulée. Et il fallait s'occuper des gens. Donc j'ai essayé de m'occuper des gens, enfin autant que j'en avais les moyens, parce que bon, on n'avait pas beaucoup quand même à ce moment-là. Et en plus, j'ai. Alors vous me demandiez pourquoi j'ai pas continué, puis après on va peut-être passer à Napoléon, qui est beaucoup plus intéressant que moi.
Ah non, non, non.
Alors j'ai pas continué parce que j'ai vu déjà à l'époque, c'était il y a 40 ans, ce qu'est le métier politique. C'est-à-dire que la doctrine, l'idéologie, c'est zéro. La manœuvre, le copinage, les faux débats, c'est tout. Hein.
Ah oui.
À l'époque, pourtant, les partis politiques étaient très bien implantés, très nombreux. Le Parti socialiste à Thionville, puisque c'était là, devait compter 200 ou 300 adhérents à ce moment-là. Les réunions de section étaient des espèces d'assemblées où tout le monde pouvait donner son avis. Enfin, c'était très cadré, mais enfin, il y avait quand même de vrais débats. Il y avait vraiment des débats d'idées, mais dès qu'il s'agissait de prendre une décision, eh bien, ça passait au niveau du dessus, à la superstructure, et puis là, c'était l'avis des électeurs et des militants n'avait absolument aucun intérêt. Je vous donne plusieurs exemples. Thionville, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la deuxième ville de Moselle, de Lorraine, pardon. C'était donc une ville très importante que mon député, certes exclu du PS, mais enfin quand même une espèce d'homme de gauche, aurait pu remporter, eh bien le Parti socialiste de l'époque, dont le premier secrétaire s'appelait René Lecard, il faut donner son nom, a tout fait pour le faire chuter. Hein, et a laissé la droite de l'époque, donc un député RPR qui s'appelait Jean-Marie Demange, remporter la mairie. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont tiré le tapis à leur homme, si vous voulez. Hein. Donc je me suis dit, passer plus de temps dans ce milieu-là, ce serait sans doute pas très bon pour la santé. Et puis comme je commençais à donner des cours à la fac de droit de Nancy, etc., j'ai plutôt pris cette option. Et ayant essayé de faire oublier cet épisode malheureux depuis des années, je vous remercie beaucoup Thierry de m'avoir questionné là-dessus pour révéler ce petit secret que j'avais dans mon CV.
En tout cas, c'est très, très intéressant de vous écouter sur ce sujet, et j'imagine que ça a dû être malgré tout une expérience très enrichissante avec tous ces contacts que vous avez eus en vous occupant justement des aspects sociaux des personnes.
Oui, c'est vrai.
Ça devait être extrêmement enrichissant.
Je pourrais ajouter que je vous parlais tout à l'heure donc de la section du Parti Socialiste, mais il y avait une section du RPR, il y avait encore beaucoup des centristes à l'époque. Thionville est une ville centriste, c'est la ville de Robert Schuman. Il y avait des communistes aussi, les communistes qui ont été à la mairie pendant 3 mandats consécutifs, si je ne m'abuse, avec quelques socialistes. Eh bien, on se connaissait, on se voyait beaucoup, on discutait énormément, et je dois dire que c'est pour ça que je me sens très mal à l'aise dans le monde un peu actuel, parce que, évidemment, on était d'accord sur rien, évidemment, on faisait voter les uns contre les autres, etc., mais je veux dire, on ne s'est jamais personne n'a fait preuve, même verbalement, de la moindre violence dans ce moment-là.
Les temps ont bien changé. Hein.
Temps ont bien changé. Ouais. C'était rude, hein, il faut bien sûr dire les choses, mais je trouve, par exemple, moi j'avais un très bon ami qui était du RPR à ce moment-là. Alors je dois dire, peut-être Si je dois aller jusqu'au bout des aveux, puisqu'il faut passer à table aujourd'hui, je me suis rendu compte assez vite que j'étais pas de gauche. Hein. Bon, j'avais 23 ans hein, à l'époque, donc
c'est quand même tardif.
Oui, alors c'était tardif. Je me suis rendu parce que j'ai entendu des choses, parce que j'ai vu. Et puis je vais le dire, et ça peut-être ça va me réconcilier avec les auditeurs de Radio Courtoisie. Ça s'est passé un 19 mars, donc 19 mars. Anniversaire des accords d'Évian, qui donne lieu à des cérémonies publiques. Et à l'époque, il y a 40 ans, il y avait encore l'Union nationale des parachutistes qui protestait contre cette manifestation. Et certains de leurs représentants venaient nous prendre en photo au monument aux morts, etc. Et puis, un militant socialiste me dit à un moment, tu te rends compte, c'est scandaleux, etc. Et moi, je lui réponds, non, je trouve que c'est normal parce que la fin de la guerre d'Algérie, c'est pas le 19 mars. Et là, j'ai vu dans les yeux de ce type une très, très grande surprise. Et moi-même, je me suis dit, pourquoi tu lui as répondu ça? Ben, c'est parce que je ne suis pas d'accord avec lui quoi, hein, sur ce sujet-là. Et donc, voilà. Alors, petit à petit, évidemment, les liens... Moi, j'avais beaucoup d'affection pour le monsieur qui était mon député. C'était un très très honnête homme. Par exemple, vous savez, la fameuse dotation dont on parle, elle existait déjà. Mais il l'a partagée entre ses assistants. Vous voyez, il la gardait pas pour lui, pour aller faire ses courses, etc., etc. Je veux dire, il a jamais demandé autre chose à ses assistants que d'être ses assistants, quoi. Je me rappelle lui avoir un jour proposé d'aller chercher son fils à l'école parce qu'il était, trop pris, etc. Je lui ai dit, écoutez, je vais aller le chercher. Il a refusé, quoi. C'est-à-dire, il a jamais voulu que je le fasse. L'école était à 500 mètres de nos bureaux. Hein. Voilà, bon, écoutez, si un jour vous voulez qu'on fasse un spécial vie de Thierry Lenz, moi je viens
mais
quand vous voulez.
Oui, tout à fait, voilà. Ça serait bien volontiers, parce que par exemple, j'aimerais bien vous interroger sur la Moselle. Est-ce que vous êtes toujours attaché à la Moselle? Vous êtes toujours mosellan du
oui,
fond du cours?
Oui,
parce
oui,
que
oui, oui.
Votre premier livre, c'est Napoléon et la Moselle. Hein,
oui,
en fait.
Oui.
J'ai
toujours été attaché, j'y suis encore... Je suis encore attaché parce que j'ai... Bon, ma mère, et c'est la fête des mères aujourd'hui, donc bonne fête maman, si tu
écoutes. J'en peux pas, j'ai oublié de fêter la bonne fête à toutes les mamans, pardon.
Ah oui.
Pardon,
oui,
chères auditrices.
Oui.
Bonne fête à vous toutes et
voilà.
Bonne fête aussi à nos mères du ciel, parce qu'elles sont nombreuses à être au ciel.
Oui. Puis on pourra parler aussi, si un jour vous en êtes d'accord, vous savez que j'ai une autre expérience un peu étonnante dans le parcours, c'est que j'ai travaillé pendant 15 ans dans un grand groupe français.
Oui.
Qui s'appelle Bouygues, hein, on ne va pas le cacher.
Vous êtes plutôt dans le droit, vous étiez dans le droit des
affaires. J'ai fait dans les relations extérieures.
Oui.
Donc là aussi, je pourrais... Enfin, j'aime bien l'expliquer, ça, parce que c'est quelque chose que... à la fois qui font un homme. Alors moi, c'est vrai qu'à force de cumuler comme ça, maintenant j'ai l'âge où on tire des bilans. Mais j'ai passé, dans ce groupe, 15 ans absolument extraordinaire. Enfin, pas tout à fait, 14 ans, absolument extraordinaire. En plus, au contact des grands chefs, hein, Martin Bouygues, puis Olivier Bouygues, j'ai trouvé... Vous voyez, je trouve le procès qu'on fait à tous ces grands chefs d'entreprise, je le trouve tellement, tellement bête et méchant, quoi, hein, si vous voulez. Parce que, évidemment, ils gagnent beaucoup d'argent en dirigeant ces entreprises, mais c'est quand même des investissements familiaux au départ. Et puis ensuite, ils volent personne, quoi. Enfin, moi, je les ai vus travailler.
Et ils créent de la richesse.
Et ils créent de la richesse.
Et surtout, la richesse qui est après répartie par
exactement,
par
mais voilà, voilà. Bon.
Et sans eux, ils ne pourraient pas répartir.
Je suis désolé pour nos auditeurs, on n'aura pas encore parlé de Napoléon après une demi-heure d'émission, mais bon.
Bon, nous allons le faire. Mais en effet, je retiens votre proposition, Thierry Lenz.
Oui,
vous n'échapperez pas à ça.
Oui, Thierry Lenz, sa vie, son œuvre.
Exactement,
oui.
Je pense que ce serait très intéressant. Et donc, nous prendrons rendez-vous,
voilà,
n'est-ce pas,
voilà,
en tête, si vous voulez bien, en espérant que le soir en question, il n'y aura pas de match au Parc des Princes, de tennis à Roland-Garros, de victoire, on ne sait quelle équipe. En tout cas, nous prendrons donc rendez-vous ensemble, et je vous propose, si vous voulez bien, Thierry Lenz, de revenir à ce superbe ouvrage Napoléon et le monde, 1769-2025. Vous écrivez en introduction de ce livre que le monde a toujours été dans les pensées de Napoléon, même lorsqu'il n'était pas Napoléon, lorsqu'il était simplement encore Bonaparte à Brienne. Le monde était déjà dans ses pensées?
Oui, le monde était dans ses pensées parce que il a d'abord eu une éducation qui faisait penser au monde. L'éducation de ce type d'élite à l'époque, alors certes, petite élite, hein, par rapport aux élites continentales, mais enfin quand même, font que il a étudié la géographie, il a étudié la map monde, comme on disait à l'époque, donc il fallait apprendre à se retrouver, et puis il a lu une quantité de livres incroyables, des récits de voyage, des analyses qu'on dirait aujourd'hui géopolitiques, on disait pas encore ce mot à l'époque, et puis surtout, comme homme de son temps, il savait bien que la moindre action d'un dirigeant européen ou des Européens, le moindre mouvement qui se passait sur les pays européens avait un impact sur le monde entier parce que c'est l'époque où l'Europe, je dirais, dominait le monde, c'est vrai, on peut le dire comme ça, mais était surtout au centre de gravité du monde.
Et vous citez aussi Chateaubriand. Ouais. Thierry Lenzin, dans cette introduction, et vous dites que Chateaubriand avait prédit tout ce qui allait se passer.
Alors, il avait prédit tout ce qui allait se passer par rapport à ce que Napoléon mort allait devenir.
Oui, mais pas voilà, sur voilà. Son échec à venir, ça il n'avait pas...
Ah, alors ça, et bien sûr, Chateaubriand nous dit dans les Mémoires d'Outre-Tombe qu'il avait tout prévu.
Oui.
Mais bon, enfin, à l'époque, quand on regarde son comportement à ce moment-là, il hésitait quand même un peu. Hein. Non, mais c'est la fameuse phrase de Chateaubriand, « Vivant, il a manqué le monde, mort, il le possède ». Il y a juste avant une phrase dans laquelle il dit quelque chose comme « Après avoir subi la dictature de son pouvoir, maintenant nous allons devoir subir la dictature de sa mémoire ». Et c'est, au fond, oui, ça c'est très très bien vu, parce qu'il avait, compris, c'était un peu le thème de notre dernière émission, il avait compris que la comparaison entre Napoléon et ce qui allait suivre Napoléon se ferait forcément à l'avantage de Napoléon.
Alors, ce soir, nous consacrons cette émission à la première partie de l'ouvrage Le Monde, à l'avènement donc de Napoléon Bonaparte, et vous débutez ces pages 16, cette partie par un magnifique portrait. Je pense que c'est Bonaparte.
Oui, c'est Bonaparte, président de la République italienne, là, oui.
Ah non, c'est sa tenue, c'est une peinture magnifique, et par contre, je n'ai pas trouvé de qui elle était.
Ça doit être Dappiani, vous savez, quand on a un bon portrait napoléonien de Napoléon,
c'est Dappiani.
Oui.
C'est un portrait, donc... Mais il est président, là, il est...
Il est président, parce que Napoléon a été président de la République italienne pendant 2 ans, de 1802 à 1804, et ensuite, on l'oublie parfois, il a été roi d'Italie aussi, hein, c'est-à-dire qu'il était, comme on voit sur, par exemple, les pièces de monnaie, Sa Majesté, l'Empereur et roi. Il était empereur des Français et roi d'Italie. Et donc, je crois avoir compris qu'il va y avoir au château de Fontainebleau dans 2 ans une grande exposition sur Napoléon, roi d'Italie, parce qu'il reste en Italie ce que nous avons aussi en France pour l'Empire français. C'est-à-dire des régalias, des grands costumes pour le couronnement de Napoléon, qui a lieu à Milan le 28 mai 1805. Donc l'Italie, c'est un peu le deuxième pays de Napoléon, hein, à tout point de vue d'ailleurs, sa politique aussi, ensuite a été très très italienne, hein, il s'est beaucoup occupé de ce pays.
Alors, que voulez-vous traiter dans cette partie, le monde à l'avènement de Napoléon Bonaparte?
Ce que vous voudrez, mais je pense que peut-être ce qui est important...
Quel est le but de cette partie, en fait?
Excusez-moi. Oui, c'est de préparer le lecteur à la suite. C'est-à-dire, d'abord expliquer que le monde tel que Napoléon le connaît au moment où il vient au monde, si l'on peut dire, et puis pendant ses études, n'a rien à voir avec le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire que toute comparaison ne peut pas fonctionner parce que c'est un monde très très différent. Et comprendre que ce monde est très différent et comment il est organisé à l'époque fait comprendre ensuite pourquoi les actions de Napoléon ont eu un impact mondial. Alors, je dis tout de suite, ce livre s'appelle Napoléon et le monde et non pas Histoire mondiale de Napoléon. Je ne permettrai pas de reprendre ce titre qui appartient à d'autres, hein. C'est pas du tout une histoire mondiale de Napoléon, c'est vraiment Napoléon et le monde, c'est-à-dire comment dans le monde qui est le sien chaque action de Napoléon va avoir une conséquence sur le reste du monde, y compris dans des endroits où il n'est jamais allé et y compris à son corps défendant, on pourrait dire, puisque et donc pour bien comprendre ça, il faut bien comprendre ce qu'est l'Europe occidentale à cette époque. Et c'est ça que je veux montrer, puis ensuite décrire un petit peu...
Vous décrivez aussi le monde non-européen, c'est un, oui, aussi, c'est un oui, chapitre oui. très intéressant, le monde non-européen vers 1800, vous évoquez le Proche-Orient, vous évoquez l'Égypte, oui, oui. vous parlez de l'Empire perse, vous parlez de l'Inde même, oui, hein, le début oui, de la conquête et de la colonisation britannique, vous parlez même du Japon, du Vietnam, du Canada en anglais, et de l'Afrique, sans oublier bien sûr... l'Empire ottoman.
Oui, donc, oui.
C'est une grande description de la
oui,
situation.
Oui, c'est-à-dire, je crois qu'il faut comprendre aussi que, quels sont les grands ensembles, c'est-à-dire à la fois ceux qui ont une importance politique dans le monde, hein, ils ont tous une importance politique dans leur secteur, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, mais il y en a qui sont plus importants que d'autres sur les relations internationales. Alors, évidemment, dans ce monde qu'on va dire, je vais le dire non-européen alors qu'il est très largement européen, c'est l'Empire ottoman. On n'en parle quasiment jamais. Or, c'est un acteur essentiel de toute l'histoire européenne jusqu'à la guerre de 14, quoi. Je veux dire, l'Empire ottoman, c'est d'abord le grand prédateur de l'Europe. Après, c'est le grand souci de l'Europe parce que c'est, comme on dira un peu plus tard, l'homme malade. Qu'est-ce qu'on fait de l'Empire ottoman ? C'est pas qu'on aime l'Empire ottoman, hein. C'est qu'on se dit, s'il se désintègre, qui va en profiter ? Hein, et en gros, on veut pas que ce soit les Russes, hein, grosso modo, c'est ça.
Donc on fait tout pour qu'ils ne se désintègrent pas.
Ben voilà, on fait tout. Et ce qui fait qu'à certains moments, la France et l'Angleterre, qui sont pourtant en guerre tout le temps, sont des alliés objectifs sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu'ils se mettent ensemble pour soutenir l'Empire ottoman, et ils le feront jusqu'à la guerre de 14, et notamment pendant la guerre de Crimée, où ben on va attaquer les Russes. Pas pour attaquer les Russes, on s'en fiche un peu, mais c'est pour sauver l'Empire ottoman. Et donc il faut le connaître, cet Empire ottoman. Et puis, il y a d'autres pays, alors que nous-mêmes ne connaissons pas si bien que ça, parce qu'il n'y a pas de vraie histoire qui nous vient de ces pays-là, mais, par exemple, la Chine. La Chine, c'est déjà le pays le plus peuplé du monde, à ce moment-là. Hein, 300 millions, à peu près, d'habitants, sur 1 milliard d'êtres humains. Donc, vous voyez, c'est 30% de la population. Mais c'est une Chine qui est une Chine, comment dire, ouverte à la prédation, si je puis dire. Les Anglais, les Français, les Russes, tout le monde veut son petit bout de Chine, et la Chine, elle, le sachant, va se refermer sur elle-même et va surtout s'occuper de ses problèmes internes. Donc, par exemple, la Chine, à l'époque de Napoléon, enfin, l'influence de Napoléon sur la politique à l'égard de la Chine, c'est un grand trou noir, parce que il se passe rien. Bon. Le Japon. Le Japon, c'est un empire déjà très puissant à l'époque, complètement fermé aux Européens. Il y a juste 2 points d'entrée, on peut aller vendre quelques pendules, et puis on achète un petit peu de porcelaine ou des choses comme ça. Et voilà. Donc, vous voyez que toute cette partie asiatique, elle est, comment dire, à la fois pour ces deux grands pays fermés aux Européens, mais ça veut dire que comme ces deux grands pays ne s'intéressent pas à la politique extérieure, ben partout ailleurs, les Européens sont chez eux. Ils sont chez eux en Indonésie, c'est la Hollande, c'est le conquérant ou le colonisateur de l'Indonésie. On remarquera qu'en 1810, Napoléon annexe la Hollande, donc il annexe aussi l'Indonésie, donc il a un impact sur ce pays, d'ailleurs il en reste des traces. Les Indes, ce qu'on appelle les Indes, évidemment, c'est un terrain de jeu pour les Européens, non pas qu'il n'y ait pas de pouvoir politique aux Indes, au contraire, ils sont très puissants, les royaumes des Indes, mais à l'époque, on ne peut rien faire contre les Européens. Les Européens sont tellement puissants qu'on ne peut que négocier avec eux ou leur laisser la place.
Et pourtant, on ne peut pas encore parler de colonisation du monde par les Européens tel qu'on la connaîtra. Vous donnez les chiffres, hein, tel qu'on la connaîtra au 19e siècle. Vous donnez en effet les chiffres de la part mondiale sous possession européenne en 1800. Est-ce qu'elle devient après en 1914 ça n'a rien à voir. On n'est pas encore. Ouais, on est dans les prémices en quelque sorte. Et vous commencez en effet ce chapitre, donc le monde à l'avènement de Napoléon Bonaparte, par la première entité, celle qui le concerne le plus et qui nous concerne le plus, en effet, c'est l'Europe qui néanmoins, c'est ce que vous écrivez, domine le monde et vous interrogez sur les atouts de ce vieux continent qui fait qu'il domine, ouais, ouais. Il domine le monde. Et vous dites, tout d'abord, le premier atout, c'est le dynamisme démographique. Oui. De l'Europe. Et vous joignez, c'est un tableau très intéressant, c'est page 22 de ce livre, on apprend beaucoup de choses en lisant ce chapitre et ce livre. Vous donnez l'ordre de grandeur de la population mondiale par continent. Alors l'Europe, en 1750, c'est 150 millions, en 1800, c'est 187 millions. C'est une croissance, mais ce n'est pas une croissance impressionnante, alors que l'Asie, elle passe de 479 millions à 600 millions, ouais, c'est quand même bien plus important. Vous citez l'Afrique qui, elle, régresse, sans doute les maladies, les guerres.
Alors bon, on a de grandes incertitudes sur le chiffre africain.
Oui,
hein. Bon,
oui, c'est vrai qu'à l'époque...
Mais il est, si vous voulez, il y a beaucoup d'historiens de la démographie ou d'historiens de la population, on donne des chiffres. On est en gros aux alentours de ça.
Et ceux qui se développent le plus, Amérique du Nord, Amérique... latine, puisque l'Amérique du Nord, 1 million seulement, en 1750, 6 millions. Ouais. Donc ça, c'est l'immigration, j'imagine.
Il y a beaucoup d'immigration, il y a un peu, il y a même beaucoup d'esclavage, hein, des esclaves importés.
Ça comprend là aussi les...
Oui, ça comprend ces mouvements de population, si je puis dire. Mais ce qui est très marquant, c'est que, évidemment, les Européens n'ont pas l'air si nombreux que ça. C'est 20% de la population mondiale. Aujourd'hui, ça doit être 6%, hein, je crois, la population... j'imagine que vous avez dû le noter, mais on est dans ces eaux-là. Donc, surtout, une population jeune, une population avec une natalité dynamique, sauf en France, mais ça, c'est un autre sujet, natalité dynamique, et surtout, une population en très bonne santé. C'est-à-dire que l'Europe commence à promouvoir ce qu'on appellera l'hygiène, elle commence à savoir lutter contre les grandes épidémies. Il n'y a plus... Alors, il reste un petit peu de peste, un peu de typhus par-ci, par-là, mais on sait aujourd'hui, nous sommes au XVIIIe siècle, ce qu'il faut faire pour empêcher la peste de se répandre. Alors évidemment, ça fait des victimes sur les gens qui sont confinés, mais au moins, on a sauvé le reste de la population. Et puis surtout, cette invention inouïe, qui est la vaccination contre la variole. Ça fait reculer la mortalité de plusieurs pour mille en quelques années. Hein. On mourait de la variole à 5-6%, si je me rappelle bien, 5-6% des décès au 18e, c'est la variole. On va tomber à moins d'1% dans les années 1820-1830. Donc ça veut dire que ça, c'est une avancée, puis surtout, ça frappait les jeunes enfants. Donc c'est un continent qui a ce côté, on va dire, gestion de l'humain, quoi, si je puis dire comme ça, très très avancé, mais qui a tellement d'autres atouts que ça va profiter à cette population jeune, dynamique, en augmentation permanente. Si vous voulez, je peux en quelques mots...
Oui, évoquer ces atouts, c'est particulièrement intéressant. Vous avez évoqué, là, en effet, les progrès de la médecine, mais vous abordez dans ce chapitre l'industrialisation.
Oui.
Vous avez évoqué donc cette croissance soutenue par l'innovation. Quelles innovations qui explique cette croissance annuelle de moyenne de 2,5 à 3%.
Oui. Alors, et continue hein, sur le 18e siècle. C'est-à-dire, alors c'est vrai que 3%, c'est pas beaucoup par rapport aux 30 glorieuses, etc. Mais c'est quand même pas mal hein, à ce moment-là. Hein, puis on voit aussi que les prix augmentent, mais les revenus augmentent aussi, ce qui fait que c'est une population qui s'enrichit aussi un petit peu. Alors, on parle ici beaucoup de l'Europe occidentale. Hein. Il y a des trous dans la raquette, si je puis dire. Le mezzogiorno italien est un peu en retard. En Russie, il y a aussi un petit peu de misère, etc. En Espagne, beaucoup d'épidémies, etc. Mais globalement, c'est ça, le continent. Progrès technique, parce qu'on va mécaniser, on commence à mécaniser, invention de la machine à vapeur, invention du métier à tisser presque automatisé, avec des cartes pour les faire fonctionner, vous voyez, comme les premiers ordinateurs, on avait des cartes perforées. pour faire fonctionner ces choses-là. On commence à remplacer le charbon par le coq. On commence à perfectionner la façon de produire du fer. Il va y avoir des progrès dans la navigation. Nouvelle façon de calfater les bateaux, les voiles qui sont carrées, qui sont autrement faites, etc. Tout ça, c'est en 2 siècles et demi, ce sont des inventions européennes qui vont profiter aux Européens et, comment dire, des Européens qui commencent à avoir une conscience qui forme une famille. Napoléon va utiliser plusieurs fois l'expression « la famille européenne ».
Hein. Ah, c'est frappant.
Ouais.
Alors que c'est un continent quand même qui est toujours en guerre.
Alors voilà.
C'est une question que je voulais vous poser,
oui,
Thierry Lenz.
Oui. Alors c'est aussi un des paradoxes du développement parce que les guerres ont été terribles. Hein. Les guerres de religion, dévastateurs. La guerre de 30 ans, la guerre de 7 ans. Mais dans le même temps, il y a toute une philosophie de la paix qui s'est, qui s'est créée. Philosophie de la paix qui fait que les Européens se font la guerre, mais ils ont un peu honte de se la faire. Et puis surtout, bah, je suis désolé, c'est un peu cynique, mais à la fin d'une guerre, qu'est-ce qu'on fait ? On reconstruit. Et quand on reconstruit, bah, ça relance le bâtiment, la route, la construction maritime, etc. Et toutes ces guerres ont permis, d'abord, et aux Européens surtout, de finir par se considérer comme étant une famille qui se déchire, en quelque sorte. Et famille parce que on parle la même langue, le français. Dans les élites, une famille qui commence à commercer, on commerce beaucoup entre les États européens. Et pour commercer, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut des canaux, et on construit des canaux internationaux, on dirait aujourd'hui. On construit des routes partout. Les villes européennes sont reliées par de très bonnes routes. Et puis, grâce aux Anglais, on commence à avoir un système bancaire, enfin, grâce aux Italiens sous la Renaissance, mais surtout aux Anglais à partir du fin du XVIIe début et XVIIIe siècle, système financier moderne avec des systèmes de virement, avec l'utilisation des chèques, enfin, etc. C'est quelque chose qui n'existe pas ailleurs qu'en Europe et qui permet aux économies européennes de représenter 30% de la production mondiale. À ce moment-là.
Oui. Hein. Venant en 1750 de 23%. 30% ouais. En 1800, ça sera ouais. 62% en 1902.
Ouais. Ouais.
En 2026, Thierry Lenz.
Oh, je ne sais plus où ça doit être. On doit être à 13 ou quelque chose comme ça.
Ouais. Ouais. Ce qui est effectivement.
Oui, oui. Mais c'est-à-dire, c'est ce que les plus jeunes d'aujourd'hui. Alors, nous qui sommes. Nous qui sommes un tout petit peu plus âgés, on a connu encore la puissance de l'Europe dans les années 60. Hein, puisqu'on sort. On sort de la reconstruction. Là, je discutais hier avec une amie qui est beaucoup plus jeune que moi. Je lui disais, mais un peu ce que disait Talleyrand sur le 19e siècle, qui n'a pas connu les années 70 ne saura pas ce qu'est la douceur de vivre. Hein. Bon, on n'a jamais aussi bien vécu que dans les années 1970. Alors, ça n'a peut-être pas duré longtemps, mais au moins, c'était très intense. Ben là, on est dans ce type de après la guerre de 30 ans, on est dans ce type de d'élan qui est donné par la paix retrouvée, si l'on veut, hein, et qui fait que d'abord on reconstruit rapidement, on commence à se parler entre Européens, on commence à créer un nouveau droit diplomatique, on commence à avoir comme objectif la paix. Alors évidemment, la paix, il y a toujours de la guerre pour arriver à la paix, mais vous voyez, il y a quelque chose qui est d'abord on fait plus de guerre cruelle. On essaye de pas trop massacrer les populations, on traite bien les prisonniers, on soigne les blessés ennemis, etc. Tout ça, ça crée quelque chose.
Hein, alors, c'est sous quelle évolution qu'on traite mieux les prisonniers, les populations.
Alors,
qu'est-ce qui est moteur
Le moteur, c'est le côté absolument affreux de la guerre de 30 ans. Hein, la guerre de 30 ans, c'est
une prise de conscience.
11-12 millions de morts en Europe. Hein, donc c'est énorme. Hein. Et puis l'Église. Hein, l'Église va beaucoup jouer là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne voit dans l'Église de cette époque que les quelques restes d'Inquisition, qui était d'ailleurs pas forcément, qui ne brûlait pas forcément tous ceux qui passaient devant elle. Hein. Il faut quand même revenir à des choses un petit peu plus raisonnables. Et puis l'Église a beaucoup joué là-dessus. Hein. Les papes successifs sont des artisans de la paix aussi. Hein. Alors bon, ils ont une partie temporelle de leur pouvoir, il faut qu'ils fassent un peu les deux. Mais c'est quand même de ce côté-là qu'il faut chercher. Et puis les philosophes, le projet de paix perpétuelle de Bernardin de Saint-Pierre, Kant qui s'y met, tous les grands penseurs et les grands juristes de l'époque réfléchissent à se dire comment maintenir la paix. Et en gros, la paix, c'est essentiellement faisons tous ensemble des affaires et on n'aura pas envie de se faire la guerre. Donc ça participe aussi à la création de cet état d'esprit européen, si l'on veut, qui est... Alors, je parlais tout à l'heure de famille européenne, il y a quand même des exclus hein, dans la famille. C'est pas tout le monde qui est de la famille, hein, c'est quand même plutôt grosso modo l'Europe occidentale. Les autres, ça fait un peu barbare. Et alors, les Russes, c'est la terreur du continent à l'époque. On les appelle les barbares du Nord. Hein, on veut surtout pas qu'ils viennent vers l'ouest du continent, ces gens-là, hein, parce que on les considère comme étant des barbares. En revanche, tout ce qui est, si vous voulez, je prends toujours cet exemple-là parce que il est parlant. C'est l'Europe des Six. Rappelez-vous de la carte de l'Europe des Six. C'est l'Empire napoléonien, c'est l'Empire de Charlemagne, c'est l'Empire napoléonien, et c'est cette Europe-là que veulent les gens, c'est-à-dire, l'Europe occidentale, allez, on va arriver à se mettre d'accord avec les Anglais, tout ça, ça domine le monde. Hein. Et puis, on est très méfiant vis-à-vis de tout ce qui vient de l'Est, que ce soit l'Empire ottoman, hein, au Sud-Est, ou que ce soit les Russes plein Est.
Donc... Alors, on peut comprendre pour l'Empire ottoman, parce qu'en effet, il était très offensif jusqu'à sa défaite à Vienne, qui a commencé à marquer son recul. Mais pourquoi cette hostilité vis-à-vis des Russes?
Parce que d'abord, c'est un monde qui est peu connu. L'avènement de Pierre le Grand, c'est début du XVIIIe. Lui est un souverain russe qui veut européaniser... Mais européaniser la Russie d'Europe, hein. Les élites s'entendent, mais les quelques rares voyageurs qui vont en Russie se rendent bien compte quand même que c'est un pays qui est encore très arriéré. Alors, quand on dit très arriéré, c'est pas péjoratif, hein, c'est simplement par rapport au niveau de développement de l'Europe occidentale, ils en sont vraiment loin, et puis on peut pas y aller, il n'y a pas de route. Vous voyez, on peut aller en Allemagne, on peut aller en Pologne, on peut aller dans les Balkans à la limite, parce qu'il y a des routes, puis il y a des ponts. Mais après Varsovie, il y a une route qui va à Saint-Pétersbourg et une qui va à Moscou, c'est tout. Hein. Donc c'est un monde un peu inconnu. Les Russes n'ont pas toujours fait preuve d'une grande retenue, hein, et ils ont eux-mêmes une politique étrangère qui est bien comprise hein, par les Européens. Hein. Les Russes, ils veulent quoi, en fait, vis-à-vis de l'Europe? Il y a trois choses qui les intéressent. La première, c'est d'avoir accès aux mers chaudes. Parce que pour commercer, pour exporter, il faut avoir accès aux mers chaudes, et la mer chaude, c'est la Méditerranée, là. Hein. Bon, il n'y a pas de doute. Donc, il faut les empêcher de descendre vers la Méditerranée. Donc là, allez, l'Empire ottoman, on va vous maintenir en forme pour barrer la route aux Russes. Et puis, ça a l'air contradictoire, mais ça l'est pas du tout. Ils s'intéressent beaucoup à la Finlande, les Russes, parce que en Finlande, de façon tout à fait paradoxale, il y a des ports qui ne gèlent pas pendant l'hiver sur la Baltique. Il y a trois ou quatre ports finlandais que tout le monde veut parce qu'ils
ne gèlent pas.
Pour des raisons de courant, pour des raisons de naturelles, ça ne gèle pas. Tout le reste gèle, mais pas ces quatre ports-là. Donc les Russes veulent aller en Finlande, puis ils jugent qu'en plus, les populations sont assez proches à l'origine, hein, les fameux Varèges, là où je ne sais plus comment on les appelle. Voilà. Et puis la troisième chose, c'est, puisque nous sommes Européens, il faut qu'on aille un petit peu vers l'ouest du continent. Là, il y a la politique matrimoniale. Vous savez que tous les petits princes allemands vont se retrouver avec des princesses russes à la maison, si je puis dire. Les grandes dynasties ne veulent pas entendre parler des Romanov, hein, pour les Bourbons, pour les Habsbourg, les Romanov, c'est moins que rien, hein, donc surtout jamais d'alliance avec eux. Mais les petits princes allemands, ils sont assez d'accord. Et c'est une façon pour les Russes d'avoir une espèce de soft power sur le centre de l'Allemagne. Et puis évidemment, la grosse pomme de discorde entre les Européens et les Russes, c'est la Pologne. Hein. Le royaume de Pologne n'arrive pas à stabiliser ses institutions, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein, le fameux liberum veto là qui fait qu'un seul noble peut gâcher l'élection royale, quoi. Bon, ça fait qu'on n'arrive pas à avoir de roi. Puis les Russes se disent, bah, attendez, nous on va vous aider, quoi. On va vous en trouver un droit. Il est russe. Bon, alors les Prussiens, les Autrichiens ne seront pas d'accord. D'où ces partages successifs qui sont en fait de la neutralisation des trois grandes puissances sur le dos des Polonais, hein, à ce moment-là. Donc, vous voyez, et donc, ces désirs des Russes sont connus, donc on va s'en méfier. C'est quand même un ensemble, c'est déjà le pays, le plus grand pays du monde, hein, la Russie, à ce moment-là. Elle est à peine plus peuplée que la France, en tout cas, pour ce qu'on en sait, c'est-à-dire essentiellement la Russie d'Europe. Donc c'est quand même un gros morceau, quoi. Il faut surveiller tout ça de près.
Antoine, vous nous avez expliqué les raisons de la domination européenne, due d'abord à sa démographie qui est tonique, hein, ce sont vos termes, et puis à sa situation économique, sa croissance, ses innovations, notamment ses innovations techniques grâce à la machine à vapeur, à son réseau routier, à ses progrès aussi dans le domaine de la santé et de la médecine, la manière de gérer les épidémies, le début des premiers vaccins contre la variole, eh bien, tout cela fait que l'Europe, en effet, domine le monde, hein, cette excellence scientifique et technologique. Et j'aimerais quand même vous poser, puis nous allons faire une petite pause, parce qu'après, vous évoquez effectivement ce sentiment, cette conscience naissante de l'Europe, et pourtant l'Europe se révèle une poudrière, oui. Et qui va exploser avec des dizaines de milliers, des centaines de milliers de victimes d'une guerre qui va durer de 1792 à 1815. Donc, je pense que nous consacrons à la deuxième partie de cette émission, ce thème-là, et notamment cette guerre franco-britannique, hein, cette rivalité franco-britannique au sein de l'Europe. J'aimerais, avant cette pause, vous poser une dernière question, Thierry Hens. Le continent européen est le plus innovant au monde. Malheureusement, on peut regretter que ce n'est plus du tout le cas, puisque l'innovation, maintenant, elle est en Chine et aux États-Unis. Malheureusement, très, très peu chez nous en Europe. Et comment expliquez-vous que ce soit en Europe, justement, on soit le plus innovant? C'est parce que la démographie est plus forte?
Oui, la démographie est plus forte.
Pour vous, c'est la raison principale?
Le climat de l'Europe occidentale est un climat idéal, à la fois pour le développement de l'agriculture, pour la liberté de navigation. Et puis, il y a aussi une habitude ancienne, hein, de rechercher des progrès, de rechercher des inventions. On a oublié de citer la puissance militaire de l'Europe. Hein. Les vaisseaux de guerre, c'est par centaines que les Européens peuvent... Un vaisseau de guerre, c'est le plus gros vaisseau qui existe à l'époque. C'est l'équivalent du porte-avions d'aujourd'hui, on va dire, hein, grosso modo. L'Angleterre en a 130, la France en a 80, la Hollande en a 40, etc. Et c'est les seuls qui font des vaisseaux de guerre dans le monde entier. Hein. Les Américains vont attendre 1817, je crois, pour avoir le premier vaisseau de guerre de leur marine. Sinon, c'était des petites frégates, des choses où un vaisseau européen disloque tout ça en quelques instants. Hein. D'ailleurs, une des grandes flottes européennes, c'est la flotte espagnole, puisqu'elle domine l'Amérique du Sud. Donc, voilà. Donc, il y a cette puissance. Et puis, il y a l'éducation aussi en Europe, qui est un objectif des gouvernements. Alors, pas l'éducation nationale, comme on dirait aujourd'hui, mais l'éducation des élites, l'éducation scientifique, etc. On est, mais entièrement tourné là-dessus. Aujourd'hui, si on vous dit « Ah, il y a l'Académie des sciences qui a dit un truc comme ça », les 4/5 des gens vont vous dire « Mais c'est Quesaco, l'Académie des sciences, quoi. » À l'époque, les gens, cultivés évidemment, sont capables de vous dire les 40 membres de l'Académie des sciences. Parce que ce sont tous des scientifiques, vous voyez. On va un peu loin, mais pourquoi pas? Les académies de l'époque, Académie des sciences, Académie française, etc., c'est des jeunes gens qui sont dedans. C'est-à-dire, on fait rentrer des gens à 35-40 ans, parce qu'ils sont en train d'inventer des trucs.
Mais partout.
Et oui.
Que ce soit dans le monde politique, le monde militaire, le monde scientifique, ils sont... Alors, peut-être parce que la durée de vie est plus courte, non?
Peut-être, ça joue, mais une fois pas qu'on forcément a passé la mortalité infantile, on vit très vieux, hein, si on... Oui. Enfin, c'est un peu comme chez nous, quoi. Hein. Quand vous regardez les dates, moi, je connais bien le personnel du consulat et de l'Empire, le nombre d'entre eux qui sont morts entre 80 et 90 ans est très important. Il faut juste passer la mortalité infantile. Voilà, ouais, ça, c'est le gros truc. Et puis après, quand on est militaire, il faut faire attention de ne pas prendre un boulet. Mais voilà. Et ça, c'est quelque chose, vous voyez, on a créé des institutions pour fédérer et faire avancer. Et on y met les gens qui peuvent fédérer et faire avancer. Nous, aujourd'hui, alors l'Académie des sciences, c'est un peu moins le cas, mais l'Académie française, l'Académie des sciences morales, etc., ils sont quand même tous relativement âgés. C'est-à-dire, c'est plus une récompense de leur travail, qui d'ailleurs le mérite, que de dire, on vous met dans cette instance, parce que là, entre vous, vous allez discuter, ça va faire avancer le schmilblick, si je puis m'exprimer ainsi. Et tout ça, c'est ces académies, les académies parisiennes, mais dans la province, il y a partout des académies des sciences et des arts qui s'ouvrent, qui existent encore d'ailleurs pour beaucoup d'entre elles aujourd'hui, et qui sont des viviers dont on se sert à l'époque, enfin dont on se sert, qui favorisent la recherche, comme on dirait aujourd'hui, et l'innovation. Voilà, on n'arrête pas de créer des nouveaux bazars alors qu'on a des institutions ancestrales. Il suffirait qu'elle soit un peu revigorée. Hein. Moi, il se trouve que je suis membre d'une académie de province, qui est l'Académie nationale de Metz. Ça va pas vous étonner.
L'Académie nationale de Metz, ça correspond à.
Ça correspond. C'est une académie des sciences et des arts qui a été créée sous Louis XV, je crois.
Donc très ancienne.
Très ancienne. Hein. Alors, c'est pas la plus ancienne. Je crois que la plus ancienne, c'est Toulouse. Ça s'appelle la Compagnie des Jeux Floraux, je crois, à Toulouse. Mm-hmm. C'est à Toulouse. Mais qui est une académie des sciences et des arts. Si vous voulez, hein, littérature, sciences et arts. L'Académie de Metz, elle a pignon sur rue, elle a ses propres locaux, etc.
Et vous êtes nombreux ?
Je ne veux pas dire de bêtises, mais une cinquantaine de membres. Hein, oui. Mais parmi eux, il y a des grands scientifiques, il y a des grands chercheurs en informatique, etc. Et bien sûr, ils viennent faire part à leurs collègues de leurs travaux, mais imaginez qu'une instance quelconque, conseil régional, ville de Metz, où se disent « Mais voilà, j'ai un outil extraordinaire. J'ai les meilleurs de toutes les spécialités. Comment je peux les faire bosser pour l'intérêt général, si je puis dire ?» Alors, ils ne feront pas tout seuls, mais au moins, vous voyez, on utilisera ces instances à... Alors, c'est plus le cas aujourd'hui, mais c'était le cas à l'époque. Hein, et puis on aide, il y a une générosité, il y a un mécénat des nantis à l'époque, qui fait émerger des talents. Hein. Alors c'est vrai, on le sait beaucoup en musique, parce qu'on sait bien que tel musicien a eu son sponsor, Mozart, Salzbourg et autres, etc. Mais c'est la même chose dans les sciences, dans les techniques, etc. Donc je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais c'est pour vous montrer que l'Europe est à ce moment-là au-dessus. En développement, en capacité technique, en capacité militaire et en capacité humaine des autres parties du monde.
Pour toutes les raisons que vous expliquez parfaitement, Thierry Lenz, dans ce livre passionnant et magnifique, hein, de superbes illustrations d'Apollon et le monde, que vous publiez dans la collection Référence aux éditions Belin. Et je rappelle, chers auditeurs, que nous nous attachons plus particulièrement ce soir au chapitre, à la première partie, pas chapitre, de ce livre où Thierry Lenz décrit le monde à l'avènement de Napoléon Bonaparte, ce que vous venez de faire en partie, parce que nous allons poursuivre sur le monde européen. Vous nous avez expliqué pourquoi la suprématie, la domination mondiale, eh bien, c'était celle de l'Europe, pour tout ce que vous venez donc de nous raconter. Nous faisons une pause, nous écoutons un message de la radio et nous reprenons l'antenne pour poursuivre sur ce thème.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, eh bien nous reprenons cette émission. Nous avons de nombreux messages d'auditeurs. Alors j'essaie de les lire et puis Thierry Lenz, bien sûr, se fera un plaisir de répondre. Alors un auditeur qui nous dit, peut-on résumer le bonapartisme par cette citation de Napoléon, « Ni talon rouge, ni bonnet rouge, je suis national ».
Oui, ça fait partie de la définition. Mais vous savez, notre auditeur, il est un peu comme nous. Hein, il a un peu d'expérience, il regarde bien un peu tout. Aujourd'hui, il vaut mieux être ni talon rouge, ni bonnet rouge et être national que d'essayer d'exprimer une opinion tranchée. Donc, l'expression à ce moment-là de Napoléon, c'est parce que à l'arrivée de son arrivée au pouvoir, il est un peu tiraillé entre les deux, entre les bonnets rouges et les talons rouges. Alors, c'est un petit peu pour justifier qu'il frappe sur les uns et puis frappe sur les autres après. Mais c'est vrai que c'est un peu comme le... Alors, théoriquement, hein, le bonapartisme, c'est un peu comme le gaullisme. C'est une espèce de volonté de fusion nationale. Après, est-ce que ça marche? Est-ce que ou à quel prix doit-on réaliser la fusion nationale? Ça, c'est une autre question.
Alors, challenge, encore un autre sujet d'émission à prévoir avec vous. Un auditeur qui nous dit, Monsieur Thierry Lenz voudrait-il nous proposer une émission à propos de la guerre d'Espagne qui ne fut certes pas glorieuse pour l'armée française, ni pour Napoléon, ceci expliquant peut-être que cet épisode ne soit jamais traité par aucun historien.
Alors, j'ai le plaisir d'annoncer à cet auditeur que je suis en train de travailler sur un ouvrage sur la guerre d'Espagne, qui va être assez gros. On en parlera le moment venu, mais il y a vraiment quelque chose à chercher sur cette guerre d'Espagne, parce qu'en fait, on va dire c'est Napoléon 1808-1813-14. En fait, la guerre d'Espagne, elle commence au moment du traité d'Utrecht, c'est-à-dire au moment où l'Europe accepte l'avènement de Philippe V sur le trône espagnol. Et elle se termine en 1975 à la mort du général Franco.
Voilà, longtemps. Hein.
Ça dure longtemps, mais écoutez, je vous expliquerai pourquoi.
On comprend pour la première, moins pour la deuxième. Mais
pour la deuxième, parce que après la chute du régime français, on va dire, Ferdinand VII, le roi d'Espagne, restauré, décide de ne pas appliquer la Constitution mise en place par les instances provisoires, on va dire ça comme ça pour le moment, donc la fameuse constitution de Cadix, et il réinstaure l'absolutisme total en Espagne, y compris d'ailleurs avec dureté. Et donc il va s'en suivre 130 ans de combats, d'épisodes, de coups d'État, de gouvernements provisoires, de changements constitutionnels, etc., qui aboutissent en 1939, à l'avènement du général Franco, qui lui va mettre le couvercle sur les questions constitutionnelles, et le couvercle ne sera soulevé qu'en 1975. Et au fond, celui qui résout le problème, c'est l'arrière-arrière-petit-fils de Ferdinand VII, c'est Juan Carlos. Voilà. On expliquera tout ça en détail parce qu'en même temps, il y a une implication mondiale là aussi dans la guerre d'Espagne de Napoléon. Il y a une implication économique. Et il y a évidemment, mais ça, on ne le cachera pas, on ne l'a jamais caché d'ailleurs, le caractère absurde de l'expédition espagnole de la part de Napoléon. Il n'en a pas besoin. L'Espagne est à ses pieds, l'Espagne est à sa main, l'Espagne est... regardez la carte, l'Espagne n'a pas le choix de ses voisins, hein, je suis désolé, mais bon, voilà. Et il y va quand même. Alors pourquoi? Ben on verra ça.
Préférez attendre?
Oh, si vous voulez, oui, parce que sinon on va finir l'émission là-dessus.
Il faut que nous avancions un petit peu, Thierry Lenz. Et un auditeur, à propos du développement de la science en Europe, le facteur religieux, la chrétienté, n'est pas évoqué, car on y parle d'un Dieu transcendant, indépendant de la création, et de ce fait on peut l'étudier, car elle est intelligible. Le fait que la religion chrétienne, effectivement, laisse une véritable liberté
oui, bien sûr.
Et une autonomie à l'homme, et c'est ça qui favoriserait
Mais complètement. Et, c'est, oui. Et d'ailleurs, beaucoup moins à l'époque qui nous intéresse, la fin 18e, le Saint-Siège a beaucoup fait hein, pour la... Vous savez, on vient toujours nous parler de Galilée, hein, parce qu'on n'a que ça, hein, en fait. Mais tous les autres scientifiques qui ont été aidés, hébergés et financés par le Saint-Siège, ça fait partie de cette recherche européenne.
Mmh. Un auditeur dit au Portugal, il existe une expression lorsque quelqu'un et moi on dit qu'il est parti en manchot. Cette expression désigne le général Loison qui a sévi en péninsule ibérique. Il avait perdu un bras à Iéna. Quant à Bonaparte, il a agi tel un. Alors on n'arrive pas à lire mafieux, je ne sais pas.
Ouais.
En plaçant. Ah oui, c'est ça.
Ouais.
Tel un mafieux en plaçant sa famille dans toute l'Europe. Et l'auditeur conclut en disant « Gloire à l'Angleterre qui a éradiqué cet être nuisible ». Je ne suis pas sûr que nous partagions son avis dans ce sujet.
Non, mais d'abord contrairement à ce qu'on croit, l'Angleterre ne l'a pas totalement éradiqué, parce que, comme disait un historien napoléonien qui s'appelle Jacques Jourquin, il disait toujours « Et dire que Napoléon ont mis... » et dire que les Anglais ont mis Napoléon à Sainte-Hélène pour qu'on n'entende plus parler. Alors en fait, voilà. Bon, mais évidemment, mais ce monsieur, il a raison. D'abord, il illustre, je ne sais pas comment dire ça, tous les Napoléons qui existent dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a, je suis sûr qu'au Portugal, on va trouver des gens qui aiment bien Napoléon, qui lisent sur Napoléon, etc. Puis il va y avoir des adversaires. Mais en Espagne, le jour où on parlera tranquillement de l'Espagne, c'est la même chose. Aujourd'hui, il y a de vrais débats au sein de la société historiographique espagnole, si vous voulez, sur est-ce que c'était bien, est-ce que c'était mal, cette affaire. Et c'est pas... Alors, je dis toujours, il y a une bande dessinée qui est sortie en Espagne il y a 2-3 ans, qui s'appelle Napoléon, gentil ou démon. Ben voilà, c'est toute la question qui tourne autour de Napoléon depuis 220 ans.
La réponse est ni l'un ni l'autre.
Ben voilà. C'est toujours, il y a quelques exceptions en histoire quand même, mais enfin, il faut toujours aller voir un peu dans la nuance.
Mmh. Un auditeur, Napoléon voulait-il gagner les Indes s'il avait vaincu les Russes en 1812 ?
Ça, c'est ce qu'il nous a raconté après, hein, mais
oui.
Non, je pense que... Peut-être se faisait-il ce projet, mais vous vous rendez compte qu'il part de France, on va dire au début du mois de mai 1812, il va seulement rentrer en décembre. Un souverain aussi centralisateur, aussi autoritaire, qui part de chez lui pendant 6, 7, 8 mois. Hein. Donc je pense que s'il était arrivé à Moscou en bon état et qu'il avait eu l'intention de descendre vers le sud pour aller s'occuper des Indes, il partait pour 2 ans.
Oui. Hein.
Sa dynastie aurait eu bien des difficultés. Oui. On voit bien qu'avec l'affaire Mallet, il n'y a pas eu tout de suite le réflexe de proclamer le roi de Rome. Mais c'est vrai qu'après, Napoléon nous a raconté qu'il aurait dû descendre vers le sud, aller se créer un nouvel empire aux Indes, etc. Tout ça est... s'il y a quelqu'un qui ne doute pas de Napoléon, contrairement à notre auditeur là qui était d'origine portugaise, s'il y a quelqu'un qui ne doute pas de Napoléon, c'est Napoléon lui-même.
Hein. Et puis un auditeur a fait tourner Grok, vous savez, l'intelligence artificielle américaine sur la marine de guerre américaine au XVIIIe siècle. Donc je vous le laisse,
ah bah oui.
Thierry Lenz, comme ça vous pourrez l'emmener avec vous, en ne faisant pas le commenter, parce que il nous reste plus qu'un gros quart d'heure à passer en votre compagnie pour évoquer justement la situation géopolitique de l'Europe, que vous décrivez comme une poudrière, malgré la naissance de cette conscience européenne. Et dans cette situation géopolitique continentale, bien sûr, cette rivalité franco-britannique qui est essentielle, c'est le message hein, de notre auditeur là, qui nous y amène d'ailleurs. Pourquoi Napoléon a-t-il perdu son temps en ne s'attaquant pas directement à l'ennemi public numéro un qui était l'Angleterre? Certes, à un moment, il n'avait plus de flotte à cause d'Aboukir et de Trafalgar, mais ce manque pouvait se compenser dans le temps. Voilà.
Alors,
donc ça nous amène à la situation géopolitique du continent.
Oui.
Une poudrière, écrivez-vous. Pourquoi une poudrière? Quelles sont les rivalités? Parce qu'on va parler, on va détailler celle de la France et de l'Angleterre.
Mais
il y a aussi bien d'autres rivalités que vous décrivez dans cette première partie de votre livre, Thierry Lenz. Napoléon et le monde aux éditions Belin.
Écoutez, la question que vient de poser l'auditeur, on pourrait faire 2 heures sur la réponse. Non mais c'est vrai, parce que c'est la question qu'il faut poser là-dessus. Oui. Hein. Alors on va essayer d'y répondre tout à l'heure avec quelques éléments temporels, puisqu'il dit il aurait eu le temps. On va voir s'il aurait eu le temps. D'abord juste, l'Europe c'est une poudrière parce que les intérêts des puissances ne sont pas des intérêts univoques. Et il n'y a pas besoin de la France, il n'y a pas besoin de la Révolution française pour que l'Autriche ait envie de manger une partie de la Bavière. Il n'y a pas besoin de la France pour que les Russes viennent prendre la Moldavie, la Valachie à l'Empire ottoman. Les histoires polonaises, malgré le secret du roi de Louis XV, il n'y a pas besoin de la France pour qu'on se partage la Pologne. Tout ça, ça fait partie des choses de l'Europe qui sont...
Oui, alors je vois une chose, pardonnez-moi, puisque vous évoquez ça, Thierry Lenz, il y a une chose de l'Europe que vous abordez, en effet, c'est la situation du Saint-Empire romain germanique qui est à l'agonie, et derrière cette rivalité autricho-prussienne. Pouvez-vous en dire un mot?
Oui, bien sûr.
C'est difficile, un peu difficile à comprendre.
Alors, écoutez, parce que nous partons toujours de la connaissance qu'on a de l'Allemagne aujourd'hui.
Oui. Hein.
Je pense d'ailleurs que si on connaissait bien l'Allemagne d'aujourd'hui, on comprendrait le Saint-Empire romain germanique, parce que les fameux Länder, là, ces États indépendants hein, en Allemagne, c'est les anciens royaumes du Saint-Empire romain germanique, hein, grosso modo. Alors, le Saint-Empire romain, c'est quelque chose qui est le, on va dire, c'est le descendant du royaume de Louis le Germanique, petit-fils de Charlemagne, les partages de Verdun, etc., qui s'est divisé ensuite en plein de petits états, jusqu'à 600, 700, des villes libres, des évêchés, etc., puis des grands états, la Bavière, le Wurtemberg, la Saxe, la Prusse, voilà, il y a des grands états assez puissants, la Bavière, très très puissants puissant État allemand. Bon, ça, c'est une carte où les Français sont beaucoup allés jouer. Sous Louis XIV, le sac du Palatinat, etc. C'est un champ de guerre formidable, puisque domine le Saint-Empire, l'Autriche. Comme les Habsbourg sont l'ennemi principal de la France, de Louis XIII et de Louis XIV, on va leur faire la guerre là où on peut les rencontrer. Et eux, d'ailleurs, ils ne veulent pas faire la guerre chez eux, ils préfèrent faire la guerre chez les Allemands. Donc voilà, c'est ce qui se passe. Et puis, au moment de la Révolution française, d'abord, les Allemands vont eux-mêmes réduire le nombre d'États par ce qu'ils ont appelé des médiatisations, ce serait un peu long à... Enfin bref, des absorptions, quoi, hein, voilà. Et puis, on va arriver à un moment, au moment où Napoléon va commencer à s'occuper sérieusement de l'Allemagne, on doit être à 200 États à peu près, puis on va passer à une cinquantaine. Donc ça, c'est la situation Saint-Empire romain germanique. Le Saint-Empire, il est normalement dominé, pas gouverné, mais dominé par l'Autriche. Depuis Othon Ier, le fondateur, pratiquement toujours des Habsbourg, ont été empereurs du Saint-Empire romain germanique. Et ça, il y a des États qui n'en veulent plus. Hein. Alors, il n'a pas beaucoup de pouvoir, mais il a le pouvoir moral, il est l'empereur. Bon. La Prusse se dit candidate à challenger ou à rivaliser avec l'Autriche. Mais les puissances allemandes du Sud, qui sont catholiques, se disent ces Prussiens sont protestants. Je ne veux pas des Autrichiens catholiques, mais je ne veux pas non plus des Prussiens protestants. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se tournent vers le troisième acteur, la France. Et la France devient l'allié de ce qu'on a appelé la Tierce Allemagne. Donc, en gros, Bavière, Wurtemberg, Bade... un peu de la Saxe à un moment donné, etc. L'Allemagne de l'Ouest, on parlait de l'Europe des Six, voilà. Hein. Là, il y a un ensemble historique et de population, de religion, de culture qui est assez cohérent. Bon. Donc, cette Allemagne va faire partie de l'enjeu. Bon, alors, on peut dire tout de suite à vos auditeurs que ça ne va pas fonctionner. Napoléon va remplacer le Saint-Empire par ce qu'on a appelé la Confédération du Rhin, quarantaine de membres, et puis à la chute de Napoléon, on va créer ce qu'on appelle la Confédération germanique, qui va, elle, durer jusqu'à la guerre de 14, mais va se scinder en petits morceaux. Et la Prusse va prendre le dessus là-dedans. Et c'est comme ça qu'on va arriver, non pas à l'unification allemande, comme on dit souvent, mais à la création de l'Empire allemand. Hein. Oui. L'unification allemande, c'est ce que vont tenter les nazis après, dans les années 1930. Mais jusque dans les années 30, il y a toujours le grand-duc de ceci, le roi de cela, etc. Alors bon, après la guerre de 14, on les supprime, mais ils ont toujours leurs possibilités. Quand vous allez en Bavière, on vous montre des châteaux, on vous dit ils appartiennent au Wittelsbach, c'est-à-dire au roi de Bavière, quoi, si vous voulez. Ils ont toujours tout ça. Bon, bref, donc ça c'est la question allemande. Mais je reviens, puisqu'il nous reste pas beaucoup de temps, je vais essayer
sept
de...
Sept minutes.
Le gros problème entre la France et l'Angleterre, oui. On va la faire simple, c'est la conception de l'Europe des uns et des autres. Les Anglais sont des militants de ce que eux appellent l'équilibre européen. Donc, très beau mot, on ne peut pas être contre l'équilibre européen, on ne peut pas être contre les petits chats, on ne peut pas être contre les bébés, et on ne peut pas être contre l'équilibre européen. Bon, cet équilibre européen, il est inscrit dans les traités internationaux à partir du traité d'Utrecht en 1713, où on fixe aux nations l'objectif de maintenir l'équilibre en Europe. Bon. Les autres nations sont pour l'équilibre en Europe, mais ils ne l'interprètent pas de la même façon que les Britanniques. Parce qu'il y a, sur le continent européen, la tentation de créer ce qu'on appelle un système européen, c'est-à-dire une organisation de l'Europe qui, au fond, se fait contre l'Angleterre. Bon. Napoléon va être le chantre du système européen. Bon. Les Anglais ne veulent pas de système, parce qu'ils sont déjà une espèce d'usine de retraitement des matières premières, et puis leurs produits manufacturés, il faut bien qu'ils les vendent à quelqu'un qui les achète, et à cette époque-là, mis à part un peu aux États-Unis d'Amérique, il n'y a qu'en Europe qu'on achète les produits manufacturés anglais. Donc ils ont tout intérêt à ce que l'Europe reste divisée. Et au fond, si vous prenez la politique des Britanniques vis-à-vis de l'Union européenne, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire que l'Europe des Six, qui marchait sur ce qu'on a appelé à tort le couple franco-allemand, l'Angleterre a tout fait pour le briser. D'abord en entrant elle-même dans l'Europe, et puis ensuite en prônant l'élargissement pour noyer tout ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de système. Maintenant, c'est des gens... c'est redevenu des puissances moyennes qui se chamaillent à longueur de temps. Ça plaît aux Anglais. Alors, aujourd'hui, les Anglais, malheureusement, pour eux, n'ont plus tellement d'intérêt là-dedans. Mais c'est les États-Unis qui ont l'intérêt.
Ils n'ont plus les moyens.
Ils n'ont plus les moyens, mais c'est l'intérêt, d'ailleurs.
Les États-Unis, ce sont les Américains qui ont remplacé...
Américains, c'est des Anglais qui habitent aux confins de la civilisation, comme avait dit Talleyrand à un moment donné. Voilà, donc ils ont pris ce relais. Donc, si vous voulez, il y a une incompatibilité absolue entre la politique française et la politique anglaise. Et pour répondre à l'auditeur, parce que j'oublie pas sa question, pourquoi on n'a pas réglé le problème tout de suite ? Parce que c'est une île et qu'il faut franchir...
Parce que c'est une
île,
oui.
L'Angleterre.
Oui,
il faut franchir le détroit.
Il a eu le camp de Boulogne. C'était son intention, tout de même.
C'était son intention, Trafalgar l'en empêche. On n'est quand même pas complètement sûr que les bateaux à fond plat seraient arrivés de l'autre côté. Il y a quand même une quarantaine de kilomètres. Il y a eu des essais qui ont été faits en présence de Napoléon. Il y a eu beaucoup de noyés dans un exercice organisé pour faire plaisir à Napoléon. Il fallait que la mer soit vraiment très calme.
Oui.
Alors, après, est-ce qu'il a eu le temps ? Notre auditeur le sait sans doute, mais on ne construit pas un bateau de guerre comme ça. Pourquoi Richelieu a fait planter des chênes qui sont arrivés à maturité 200 ans plus tard ? C'était pour construire des bateaux. Ben voilà, on ne peut pas couper les chênes et faire un bateau après. Napoléon fait un jour un calcul dans lequel il dit « J'ai tant de chênes en France, dans un chêne on fait tant de planches, avec tant de planches on va faire un bateau. » Et il écrit au ministre de la Marine « J'ai donc potentiellement 210 vaisseaux de guerre. » Le ministre de la Marine a dû tomber de sa chaise, parce que le bois, il faut qu'il sèche, il faut construire. Ça coûte, à l'époque, 1 million de francs pièce, un vaisseau. Budget de l'État, c'est 400-500 millions. Hein. Donc, il en faut quelques centaines pour aller... voilà. Donc, c'est une tâche qui, je pense... Et puis, je vais vous relaisser la parole. Pardon, hein, Thierry, je vois
non,
qu'on
non,
approche.
Merci de répondre.
Je pense que la bonne solution avec les Anglais aurait été la négociation après le début du blocus continental. Parce que le blocus continental, qui est une des décisions politiques majeures prises par Napoléon, ne pouvait pas marcher à long terme. Ça prouve d'ailleurs que les embargos, ça ne marche jamais. Simplement, il avait tellement dérangé l'économie britannique dans les deux premières années que là, il y aurait peut-être eu une possibilité de traiter. Mais plus personne ne voulait traiter à ce moment-là.
Pour quelle raison ?
Bah parce que c'était la lutte à mort, comme vous l'avez signalé.
Ça, c'est...
Napoléon avait commis entre-temps l'erreur d'aller en Espagne, et oui. Les Anglais avaient compris que c'était là que ça allait se passer. Quoi.
C'est ça. Alors, et j'ai encore une question à vous poser, Thierry Lenne, ça sera la dernière question. D'ailleurs, un dernier message de l'auditeur. Quand le jeune Napoléon Bonaparte est sorti de l'école d'artillerie, a-t-il voulu proposer ses talents à l'armée russe ?
Non pas russe, mais turque. Un peu plus tard. Il a pas voulu. Non. On a la preuve qu'il a essayé d'être nommé dans les missions militaires françaises en Turquie, mais pas en Russie. À l'époque, les Russes vont plutôt chercher du côté des Pays-Baltes et des Allemands. Hein. D'ailleurs, quand vous regardez les noms des grands généraux russes du consulat et de l'Empire, ils ont tous des noms allemands. Hein. La destination des Français, c'est quand même plutôt l'Empire ottoman, l'Empire perse parfois, l'Égypte un petit peu, etc.
Et certains d'ailleurs au Rajasthan.
Rajasthan,
puisque des officiers de la grande armée vont créer cette armée qui va s'opposer aux Anglais, d'ailleurs. C'est une histoire absolument incroyable. Les officiers de la grande armée, les soldats de la grande armée, nombre d'entre eux vont émigrer et constituer, encadrer des futurs. Il reste juste 2 minutes, Thierry Lenne, une bonne minute, pardon. J'ai une dernière question. À vous écouter et à lire cette partie sur l'état du monde à l'avènement de Napoléon que l'on trouve dans votre livre Napoléon et le monde aux éditions Belin, on comprend finalement que Napoléon n'est pas l'instigateur par sa démesure, par son esprit guerrier, par son goût des conquêtes de toutes ces guerres qui l'amènent jusqu'à Moscou, mais plutôt qu'il s'inscrit dans cette guerre de 200 ans, en quelque sorte, contre l'Angleterre. Il hérite des guerres de la Révolution, qui elles-mêmes sont dans la continuité de toutes ces guerres franco-anglaises depuis, justement, 1688, les guerres de la Ligue d'Augsbourg. On peut dire cela,
oui,
c'est censé pour
vous ? Il est un héritier en politique étrangère, héritier des Bourbons, héritier de la Révolution française. Les premières conquêtes, c'est la Révolution. Il est peut-être le seul, le dernier, à avoir eu la possibilité d'assurer la prépondérance française en Europe, mais vous l'avez signalé en introduction, tout ça se termine le 18 juin 1815 à Waterloo.
Eh bien Thierry Lenz, en tout cas j'espère que les émissions avec vous ne seront pas terminées, et j'ai bien compris
beaucoup.
Que nous vous recevons à nouveau pour parler de la guerre d'Espagne, et puis parler de vous, ça serait vraiment avec grand plaisir à l'occasion de prochaines émissions.
Merci beaucoup
à vous d'être venu ce soir en direct.
Et prévenons nos auditeurs que je vais essayer d'échapper maintenant aux 100 000 supporters du PSG qui me poursuivent
depuis le
début de l'après-midi, puisque là, ils ont dû commencer à faire peut-être la fête au Parc des Princes. Donc, il va y avoir du monde autour de la radio.
Bonne chance à vous, Thierry.
Merci, bonne soirée à vous, Thierry.
Merci beaucoup.